Bonjour les devs, bienvenue sur Double Slash, un podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA. Et vous êtes sur un épisode de news, c'est notre deuxième épisode pour septembre 2025. Et puis comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Donc épisode de news, on va parler beaucoup d'IA. En fait, on en parle de plus en plus, mais c'est un peu obligatoire, quoi, je pense.
Est-ce que c'est pas propre et inhérent à notre activité où aujourd'hui on a des tools. Si tu veux, avant on avait des logiciels qui faisaient un algorithme qui nous aidait dans notre boulot. Aujourd'hui, en fait, ces tools, il y a de l'IA dedans, quoi. Donc, est-ce qu'on devrait encore utiliser, une section dédiée à l'IA? En fait, ça fait partie intégrante de notre job, tu vois.
Ouais.
On utilise tous les jours au quotidien. C'est une suite logique. Est-ce que notre métier est en train de changer, d'évoluer? Oui, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va être grand remplacé par l'IA? Perso, j'y crois pas encore, mais peut-être que je peux me tromper. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à nous d'en tirer profit et de savoir utiliser ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux outils qui nous permettent de faire du meilleur travail, plus rapide. Et donc ça, c'est top. Et donc autant les découvrir et autant les partager sur Double Slash, tout simplement.
Ouais. T'as raison, c'est vrai que peut-être pouvoir. D'ailleurs, c'est un peu le cas là sur cet épisode. C'est un peu tout mélangé de l'IA. Donc, petit à petit, on va enlever la rubrique IA et ce sera juste des news en fait. Ouais, t'as raison. Carrément. Ok.
Allez, on attaque tout de suite avec Nuxt, qui s'est fait racheter par Vercel, Nuxt Lab, et qui vient.
Ah ouais.
En fait, avec son nouveau changelog, avec l'extension Vercel.app, quoi.
Ouais, c'est ça.
Classique.
Alors, déjà, le rachat, ça a fait beaucoup parler, ça, c'est clair. Et puis, j'allais justement... Bon, je vois que tu as remarqué que c'était un point Vercel, enfin, un Vercel.app. Donc là, ça marque vraiment le rachat. Et c'est juste une page de changelog qui est assez stylée, je trouve. Voilà, et au fur et à mesure des sorties de nouvelles versions, ça s'affiche là. Je la trouve très stylée, cette page, en fait.
Ouais, elle est vraiment classe. Elle est vraiment classe. Vraiment top.
Donc, on voit quand même qu'il y a encore des... Pour le coup, tiens, en passant, on voit qu'il y a encore des mises à jour sur la version 3. Hein, si jamais vous utilisez encore la version 3.
Oui.
C'est encore mise à jour.
Et perso, j'ai encore beaucoup de projets qui sont en version 3 et qui ne vont pas passer en version 4 tout de suite. Dont le gros sur lequel je suis là... Je vais attendre tout de suite. Pas tout de suite, en tout cas.
Le site du podcast a été passé en version 4, pour le coup.
Et non sans mal, on peut le dire que tu t'es quand même fait bien mal à la tête sur cette migration.
Ouais, c'était pas facile. C'était surtout sur Nuxt Content où je me suis cassé un peu les dents. Mais tout est super à jour. Là, on est dans les dernières versions. On est au top, là.
Au top. Allez voir Double Slash et vous pouvez directement écouter les épisodes directement sur le site internet directement. Autre point qui a...
Mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire.
Qui a fait grincer des dents ou on ne sait pas, mais c'est... Atlassian, un mastodonte qui est venu racheter en fait Arc, mais Arc d'IA.
Arc et d'IA.
Ouais. Mm. Donc la course au navigateur est un peu terminée ou pas du tout?
C'est un peu une déception. Après, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire. Alors, cette boîte-là, Atlassian, ils ont tendance à racheter beaucoup d'outils et à les intégrer chez eux. Plus ou moins bien, on va dire. Mais là, on a vu la direction. Enfin, Arc avait été plus ou moins abandonné. Ils sont partis sur DIA. Ils ont fait un nouveau browser avec de l'intelligence dedans. Ça partait un petit peu. Je sais pas le dessous de l'affaire. Comment est-ce que les fondateurs avaient du mal à gérer le truc, tout ça. Je sais pas. Au final, c'est racheté par Atlassian. Bon, pour moi, à mon avis, le browser est plus ou moins mort. Enfin, DIA et Arc, hein, je pense. Mais bon, c'est dommage.
Ouais,
je pense que moi, à mon avis, c'est fini. Ouais. Je pense qu'ils vont l'intégrer dans un autre outil, mais je pense que ça va disparaître, quoi. Voilà.
Par contre, on avait noté le fait que potentiellement, en fait, Google était dans un système d'un peu de monopole avec son navigateur Chrome. Et donc, ils avaient dit oui, peut-être, on va s'en séparer pour éviter. Et au final, non, il ne se passe rien.
Bah, ils étaient obligés, ouais. Bah, en fait, il y avait un procès qui avait été démarré, je crois, en 2020. Sur le monopole de Google, et donc il y avait plusieurs propositions, dont se séparer de Chrome, etc. Démanteler en fait ce monopole, et finalement, le verdict a été rendu, et finalement Google s'en sort plutôt bien. Alors après, on va pas revenir sur toutes les décisions parce que il y a beaucoup de podcasts qui en ont parlé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le navigateur Chrome qui va finalement rester chez Google, et c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce qu'en fait. Vu les acteurs qui se positionnaient pour racheter Chrome, dont OpenAI, c'était pas forcément une bonne nouvelle de le voir passer chez d'autres gros acteurs. Donc, je pense que finalement, c'est pas mal qu'il reste chez Google. Et on a quelque chose qui reste stable. Parce que oui, il fait quand même partie intégrante du web. Il est énormément utilisé. Donc, suivant dans quelles mains ça peut passer, on sait pas ce que ça peut devenir. Donc, là, c'est plutôt rassurant quand même.
Après, au-delà de Chrome, même s'il a une pénétration de marché qui est hyper forte, c'est surtout le moteur qui est utilisé, qui est utilisé dans plein d'autres navigateurs Edge, et tout le reste. Donc, c'est vraiment le moteur, quoi. Donc,
Il y avait cette question-là. Ouais. Il y avait cette question-là de Chromium, éventuellement, ça le mettait en péril. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup de navigateurs qui sont basés sur Chromium. Et là, ça devenait compliqué, quoi.
Carrément. Autre, pas super bonne nouvelle, mais qui nous impacte, nous, développeurs, c'est des packages qui ont été compromis dans NPM et pas des petits packages, en fait.
Non. C'est une mauvaise nouvelle, ça date du 8 septembre 2025, donc c'est très récent. C'est plusieurs packages, une vingtaine de packages très populaires qui ont été infectés, compromis. C'était une mauvaise nouvelle puisqu'en fait ces packages sont intégrés un peu partout, en fait on peut les retrouver dans différents frameworks, ça fait partie de dépendance de packages et donc ça s'est facilement retrouvé si vous avez mis à jour très rapidement votre Astro ou un truc comme ça, ça peut être potentiellement intégré dans un des packages de dépendance. Et c'était une très mauvaise nouvelle parce que en fait l'histoire elle est un peu... C'est assez simple, c'est qu'en fait, un des mainteneurs de ces packages s'est tout simplement fait avoir avec un phishing, en fait. Il a, phishing email, il s'est fait avoir, ça a pris ses accès à GitHub et les personnes ont injecté du code malveillant dans les packages. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Et on a eu pas mal de problèmes puisque c'est des packages qui sont, je crois qu'il y a un autre article qui donne 20 milliards de téléchargements ou 2 milliards de téléchargements. Voilà.
2 milliards de téléchargements.
C'est assez énorme.
Attends, parce que là, en fait, si j'ai bien compris, c'est le mec qui s'est fait, il s'est fait hacker, enfin, fichier, tout ça, et le script a envoyé une nouvelle release sur tous ces packages-là avec du code malveillant à l'intérieur, c'est ça ?
Alors, le truc, c'est qu'il s'est fait, il a reçu un email frauduleux provenant d'une adresse qui imitait NPM, en demandant une mise à jour de l'authentification double facteur, sauf que c'était pas le vrai site, donc il s'est fait avoir, ils ont récupéré les jetons double authentification et ils ont publié des versions malveillantes en fait des 18 paquets
dans la foulée. C'est fort.
Ouais, c'est très fort. Ouais.
C'est très fort.
C'est très fort et en fait il y a de plus en plus d'attaques sur les packages NPM, ça devient quand même inquiétant entre les gars qui intègrent les communautés discrètement et qui mettent des codes malveillants plusieurs mois après, ou ce genre d'attaque, c'est quand même inquiétant parce que c'est ça, c'est beaucoup de téléchargements, c'est intégré dans tous nos outils et ça fait un petit peu flipper quand même. Heureusement, ça a été vu très rapidement. Mais par contre, le truc, c'est que le code malveillant, il était difficile à lire, tu sais, il est obfusqué et ça concerne principalement tout ce qui est les Ethereum, tout ça là, des crypto-monnaies. En fait, ça détectait dans le navigateur des mouvements de crypto-monnaies et ça récupérait, enfin, ça a essayé de récupérer les crypto-monnaies pour les récupérer avec les tokens, machin, tout ça.
Une fois de plus, c'est voilà. La communauté qui est en alerte et qui est plutôt bien, d'où l'importance en fait.
Ouais, ça a été très rapidement en fait. Alors, apparemment, 5 minutes après que les versions malveillantes aient été publiées, ça a été détecté. Donc, il y a une alerte dans l'heure. Et ensuite, voilà, ils ont patché, etc. Mais c'était vraiment une grosse panique, quoi.
D'où l'intérêt et d'où cette solution qui pourrait en fait pallier à ce type de problème-là, c'est quelqu'un qui fait une suggestion pour NPM, pour PNPM, pour en fait essayer de bloquer les versions pour pas qu'elles se mettent à jour automatiquement.
Bah en fait, ça, son idée, ça serait de, apparemment sur PNPM, mais alors, est-ce que ça existe que sur PNPM? Si c'est le cas, c'est dommage, il faudra peut-être l'intégrer sur les autres outils aussi de gestionnaire de package. Mais de définir une date à laquelle tu vas pas télécharger la version qui est plus récente. Enfin, il faut aller au-delà de 24 heures ou de 48 heures, ce que tu veux, pour dire bah tu ne télécharges pas la version qui est trop récente en fait. Donc, est-ce qu'il aurait pu éventuellement, tu vois, éviter ce problème si vu que là ça a été détecté très rapidement, bah il l'aurait pas téléchargé et t'aurais jamais eu l'injection du paquet compromis quoi. Donc, ça serait éventuellement une solution donc à voir. Mais ça peut être pas mal à mettre en place.
Après, je suis sans doute débile, on en parlait tout à l'heure en off, mais moi, je fige toutes mes versions de package pour éviter ce genre de problème-là. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est une bonne pratique ou pas, mais et quand je fais ma mise à jour, c'est moi volontairement qui fais ma mise à jour de tous les packages, quoi. Tu vois. Donc, l'installation automatique, tu vois.
Bah, ça peut être, non, mais ça peut être automatique ou pas. Des fois, tu sais, tu peux être. Après, tu peux tomber au mauvais moment. Tu te dis, tiens, je vais mettre à jour mes packages. Tu y vas et tu es tombé pile poil au moment où il y avait
des
compromis.
Bien sûr.
Donc, pas de chance, quoi.
Ouais.
Et oui, effectivement, fixer, ça peut être pas mal. Bah, tu fixes après quand tu as beaucoup de dépendance et que tu veux tester que ça casse rien, en fait. Mais c'est un peu le principe aussi de beaucoup de CMS, tout ça, où tu vas, avant de mettre à jour, pour pas péter le site, tu vas tester en local, tout ça, voilà.
Yes.
Ouais, il y a différentes méthodes, ouais. Mais faire attention, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester vigilant, clairement.
Ouais, c'est clair.
Allez, toujours dans cette batterie d'open source IA, Vercel revient avec son SDK dédié qui nous permet de centraliser toutes ces infos et en tout cas qui est une sorte de SDK unique pour aller taper tous les modèles. Plutôt bien pratique. Par contre, aujourd'hui, il vient s'enrichir de composants.
Ils ont AI Element, c'est une bibliothèque de composants spécifique pour développer des interfaces de chatbot qui viennent de rendre open source. Donc, on peut l'utiliser. Et ça permet, via des components, de développer une interface avec les réponses, tout ça, l'avatar, le prompt, l'input de prompt, etc. Donc il y a des artefacts pour tout ce qui est code, etc. Donc tout est là, tout est présent. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ça, c'est open source. C'est uniquement React et c'est ChatCN UI. Donc voilà, pour ceux qui utilisent
ça respecte les standards un peu.
Ouais.
Excellent.
C'est pas mal.
Toujours dans cette délire de chatbox et de pouvoir échanger avec des composants. Aujourd'hui, ouais. Automatique, donc qui est la société derrière WordPress, on est d'accord?
WordPress.com.
WordPress.com.
Pas WordPress.org.
Tu as raison.
Automatique, c'est une boîte qui fait. Alors, WordPress est open source. Automatique développe des plugins autour de WordPress, dont WordPress.com, qui est un hébergement que tu peux utiliser un peu comme Shopify, tu vois, pour développer ton site. C'est une grosse boîte qui fait beaucoup de business et ils ont développé ce. Alors, c'est une expérimentation. Pour développer des blocs Gutenberg, donc spécifiques à Gutenberg, avec une partie React, etc., une partie front, soit du PHP, machin. Ce générateur de code, en fait, qui s'appelle Telex, qui permet, tu te dis ce que tu veux comme bloc, etc., il va te générer le code que tu vas pouvoir utiliser pour intégrer un nouveau bloc dans ton site. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai pas testé réellement encore, mais apparemment, le code qui sort est pas trop mal, pas parfait, mais assez bien.
Le code généré serait OK, quoi.
Voilà, c'est de l'expérimentation, mais on voit que, voilà, dans toutes les. comment on appelle ça, des générateurs de code, je sais pas, un peu comme je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà, on voit qu'on les spécialise de plus en plus dans certaines techno, quoi. C'est pas mal.
Ah, de toute façon, c'est un peu dans, c'est un peu la suite logique de tous, ouais, ces modèles d'IA. C'est, on arrive sur de l'ultra spécifique, et donc le modèle généraliste qui répond à tout, moi j'y crois pas, mais en tout cas sur des tâches dédiées bien spécifiques, un modèle soit réentraîné, soit spécifié avec des consignes très très claires, on arrive à quelque chose de plutôt qualitatif quand même.
Ouais, beaucoup. Ouais.
Plutôt qualitatif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Toujours dans cette dynamique en fait d'intégrer toutes ces informations qui viennent des modèles, il nous faut avant, il nous fallait gérer le SEO. Maintenant, il nous faut gérer aussi ces LLM, et donc autant générer automatiquement des fichiers plutôt propres pour faciliter la lecture de ces LLM à travers ton site. Et aujourd'hui, Firecrawl, donc qui est un service qui permet d'aller un peu scraper, d'aller récupérer de la donnée. Là, ils nous viennent avec une CLI qui nous permet en fait de générer automatiquement ces fichiers-là. Ouais.
Ces fameux fichiers. Alors, ils avaient une interface en ligne qui était disponible où tu mettais tes tokens et ça te générait ça en ligne. Ils ont fermé, je crois, progressivement cette interface pour rendre cet outil disponible où tu vas l'utiliser en ligne de commande. C'est du Python, je crois. Et il va te générer via l'URL de ton site les fichiers llms.txt et llms-full.txt. Donc, le llms.txt, c'est une sorte de résumé de ton site. Et le full, c'est toutes les pages de ton site, enfin en tout cas en partie, qui sont dans un seul fichier TXT. Et après, tu vas mettre ça à la racine et le robot est censé venir lire ça plus facilement. Alors, c'est pas un fichier qui est officiel encore, hein, même si voilà, moi, je l'ai mis sur certains sites. Il n'est pas encore reconnu officiellement. Donc, mais bon, ça n'empêche pas de le mettre. Voilà, on peut le générer facilement avec cet outil-là. Donc, c'est après, toujours un plus si jamais ça fonctionne, quoi. Voilà.
Bien sûr. Après, est-ce que en fait, il y a des conventions ou des choses comme ça ou des standards qui ont été établis ou aujourd'hui, ça reste encore un peu défrichage et de l'expérimental?
Honnêtement, je crois que c'est plutôt défrichage et expérimental. Mais après, justement, en utilisant cet outil, tu as déjà un exemple de format que tu peux reprendre, donc éventuellement modifier, tu vois. Donc non, c'est pas mal.
Après,
c'est pratique, j'ai essayé, j'ai testé, ça marche. Nickel.
Ouais, bien sûr. Après, ces boîtes type Firecrawl ou d'autres acteurs, en fait, vont essayer d'œuvrer pour mettre en place des standards. Et justement, les gros acteurs, en fait, décideront ou valideront ces standards-là, mais chaque société va essayer de pousser un peu son standard, quoi. Ce qui est tout à fait logique et c'est la guerre, quoi.
Ouais. Enfin, je sais pas si tu as testé dernièrement, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'on avance, les résultats de ChatGPT ou autres sont de plus en plus ressemblants aux résultats de Google. Et voilà, donc ça commence en fait finalement, le GIO devient finalement du simple SEO, en fait. Finalement, c'était bien placé sur Google. Tu sors les réponses, en fait.
Ouais. Donc, Perplexity, le concept de Perplexity, de faire une fusion entre du SEO et du G et de la génération totale, il y a une sorte de fusion qui est en train de s'opérer, ouais, clairement.
Ouais. Donc, en fait, finalement, ça ne change pas grand-chose, en fait. Pour être cité, ça revient à peu près au même que le SEO, donc bon, à voir comment ça va évoluer. Mais...
Bien sûr. Par contre, on a quand même encore le droit de pouvoir bloquer ces agents IA. À l'inverse, tu dis non, tonton, tu viens pas chez moi, je te bloque parce que je ne veux pas que tu viennes utiliser les données pour venir nourrir ton modèle. Et donc, c'est un peu le pendant de ce qu'on vient d'évoquer. En tout cas, l'autre facette, c'est de dire, OK, comme on a des robots TXT, où on vient spécifier en disant, non, disable, tu ne viens pas. Là, on pourrait, avec ce standard-là, en fait, on dit au robot, tu ne viens pas.
Bah, c'est un repo qui contient plusieurs fichiers de configuration. dont le robot TXT, après htaccess, si tu es sur des Apache, du Nginx, du Kdi, du HAProxy. Donc, tu as tes différents fichiers de config qui te permettent de dire au robot, non, tu ne crawles pas mon site. Alors après, c'est respecté plus ou moins, ça dépend les robots. Mais, mais voilà, tu as dans ce repo des exemples de fichiers à utiliser pour les intégrer dans tes configs, pour bloquer les robots, tout simplement. Alors c'est une question assez... comment dire, c'est pas évident, parce que quand tu dis le client, moi j'ai un client, une fois il me dit, non mais moi je préfère bloquer, ouais mais comme, ah, finalement non, peut-être pas en fait, parce que j'aimerais bien être cité quand même. Donc tu vois, c'est assez mitigé entre, je veux bien être cité, mais je veux pas qu'il scrape toutes mes données, tu vois. Donc c'est,
Et ouais, mais est-ce que tu peux l'un sans l'autre?
Bah non, tu peux pas. Et ouais. Tu peux pas. De toute façon, il faut savoir que la plupart des données ont déjà été scrappées et des modèles ont été entraînés dessus, donc c'est déjà trop tard. Mis à part si tu sors un site maintenant, mais donc voilà, la question est plutôt difficile à répondre parce que je veux bien être cité parce que ça m'amène du trafic, mais en même temps, j'ai pas envie que mes données soient utilisées. C'est ça aussi la difficulté, tu vois. C'est que tes données sont publiques, donc elles sont forcément utilisées, donc voilà, ils en font ce qu'ils veulent.
Malheureusement.
Ouais.
Allez, on bascule sur un autre standard qu'on utilise souvent. En tout cas, nous, en tant que podcasteurs, on a des fichiers RSS. C'est un vieux standard. Et là, en fait, c'est une librairie qui nous permet de mieux les générer ou de les parser.
Non, ça te permet de les parser, ouais. Okay. Principalement. C'est okay. Une FitMist, donc il vient de sortir en V2, c'est pour ça qu'on en parle. C'est un système qui permet de parser différents formats, les RSS. Générateur, ouais, t'as raison, pardon, c'est marqué aussi. Parseur et générateur, pardon, tu avais raison. Donc il permet de parser des RSS, du Atom, enfin tout ce qui est XML, en fait, ce format-là, et JSON aussi, donc pour pouvoir les utiliser. Donc c'est assez simple, t'as une fonction, tu mets ton JSON dedans, ton contenu. Et après, tu l'utilises comme tu veux. Tu peux typer comme tu veux, etc. Donc, c'est une librairie qui est plutôt bien faite, en fait. Et qui est pratique, parce que des fois, c'est pas évident de lire du RSS, tout ça.
Oui, bien sûr. Sur la lecture, après, ouais. Je pense un exemple typique où sur... Il y a des services, en fait, qui font des événements et qui publient, en fait, ces événements sur du RSS. Et donc, toi, ton site, tu vas pouvoir câbler, récupérer ce flux RSS et le réinjecter, ouais. Le reformater autrement. Mais en tout cas, pour faire ton sourcing de données, utiliser ce type de librairie, ça peut être super intéressant, hein, clairement. Pour venir
oui, alimenter... Oui, parce que tu as des balises spécifiques au RSS, tout ça, ça prend... puis après, je ne sais pas si c'est dans cette page-là, mais tu sais, tu as du format spécifique pour Spotify, Apple, machin, tout ça. Donc voilà, avec des balises spécifiques donc, que tu vas utiliser. Donc, il est capable de tout lire, en fait. C'est ça qui est vraiment... Tu vois, YouTube et tout. Tu vois, tu as des YT de points et tout. Donc, vraiment ouais. Bien fait, quoi. IP, etc. Donc, vraiment très bon outil, quoi.
À utiliser si vous avez besoin de jouer avec du RSS, que ce soit en entrée ou en sortie. Excellent.
Ouais.
Article de blog peut-être un petit peu plus global sur,
c'est un article.
Sur les dépendances.
C'est un article sur les dépendances, comment garder le contrôle sur son package.json, en fait. Donc, il revient, c'est Tom McWhite qui revient. Alors, il gère une application qui s'appelle Valtown. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une application React, a priori. Il explique comment avoir des bonnes pratiques, en fait, pour gérer les dépendances. Et on sait que ça peut être très vite compliqué sur un projet qui dure dans le temps, où on a installé des dépendances à une époque. Est-ce qu'on les utilise encore? Est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce que des fois, il y a des versions majeures? C'est jamais évident, en fait. Donc, il donne différents conseils et voilà, comment gérer correctement les dépendances pour que ton projet tienne dans le temps et qu'il n'y ait pas de problème de package compromis ou des choses comme ça, savoir ce qu'il y a dedans, etc. Donc, il donne plein d'outils, le NPM, LS, tout plein d'astuces. Analyser complètement la taille des modules, tu vois. Là, on voit le graphique pour ceux qui sont en vidéo. On voit exactement la taille que chaque module prend dans ton application. Comment choisir les bons modules. Par exemple, critère pour choisir un bon module, c'est maintenu activement, documentation correcte, typé en TypeScript, Voilà, éviter les modules qui sont pas adaptés. Il donne par exemple aussi un autre conseil, c'est pour les petits, quand tu des fois tu as une petite librairie, un petit module, bah, au lieu de l'intégrer dans ton package, bah, pourquoi pas bah, prendre le code et l'intégrer dans ton application directement. Comme ça, ça ne bouge plus, tu n'as pas de package à mettre à jour, etc. Voilà, il donne plein d'astuces comme ça. Et après, il donne aussi des astuces pour supprimer ce qui n'est pas utilisé, garder les dépenses à jour. Donc, il parle de Renovate, outil qu'on a mis en place sur le site du podcast, qui va dans GitHub t'indiquer ce qui est à mettre à jour, etc. Et il te propose de les mettre à jour. Et après, c'est toi qui publie. Et il parle de Knip aussi, qui permet de détecter les dépendances déclarées mais non utilisées, ou les fichiers non utilisés. Ça, c'est pas mal, par contre.
Ouais, c'est vraiment ce concept de purge où ok, j'arrête d'utiliser, en fait j'arrête d'avoir quelque chose qui traîne dans mon node module et de package si je l'utilise pas, et cette petit outil nous permet en fait de dégager tout ce qui n'est pas utilisé, quoi, et donc potentiellement ouais, de récupérer un peu de l'espace.
Ouais, surtout quand tu travailles en équipe ou que tu récupères un projet que tu n'as pas mis en place, des fois tu sais pas. Alors pourquoi cet outil il est là? Pourquoi ce package en fait? Je sais pas. Bon, éventuellement Knip peut t'aider à dire bah ça c'est pas utilisé, tu peux l'enlever. Et puis donc il conclut par que les dépendances sont inévitables. On construit toujours sur le travail des autres, mais il dit l'idée n'est pas d'avoir zéro dépendance, mais d'avoir les bonnes bien choisies, bien maintenues, etc. Voilà.
Du bon sens. Et je vois qu'il cite du NGS, petite.
Ouais, bah ouais.
petite écosystème JS qu'on ne saurait que vous recommander si vous êtes développeur JS. Allez voir c'était tout cet écosystème qui reprend soit des fonctionnalités natives, soit des extensions, mais en tout cas c'est toutes les briques technologiques sur lesquelles l'équipe de NuxtLab a construit Nitro, donc toute la partie serveur, et Nuxt, la partie serveur et front. Et donc, tout est basé sur des briques open source qui font partie de l'organisation NGS. Très, très bon. Ça roule.
Yep.
Top. Vu qu'on est des codeurs et qu'aujourd'hui, on ne peut pas coder sans notre assistant, quel qu'il soit, GitHub, Copilot, Cursor, Claude CLI ou que sais-je, on est dépendant de ces modèles d'IA et le nouveau modèle Codex n'est pas encore disponible, mais ou va pas tarder à l'être.
Ici, il est dispo depuis le 15 septembre, donc là on enregistre le 17, donc ça fait 2 jours, ils ont annoncé ça. Codex qui est un modèle qui est spécifique pour le code et qui est dérivé de GPT-5 qui est sorti début août. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà testé GPT-5, tout ça, l'évolution où il est capable de automatiquement soit répondre, soit aller faire une recherche sur le web sans qu'on lui demande, voilà, c'est lui qui décide ce qu'il doit faire. Je sais pas si t'as, enfin moi sur VS Code GPT-5 il est ultra lent en fait. Je sais pas si t'as déjà essayé toi sur, t'es sur Cursor toi, hein.
Ouais, moi je suis sur Cursor. J'ai pas été super concluant et les tests ont pas été concluants. Ouais. Du coup je suis revenu sur mon Sonnet, sur Claude.
T'es sur
quoi.
Sonnet.
Ouais.
Moi j'ai un peu de Grok aussi. Moi j'ai du Grok.
Excellent.
Ouais, il est pas mal aussi.
Et donc là, Codex, c'est vraiment la version code, quoi, vraiment orientée pour les codes.
Ouais, c'est la version code. Ouais.
Est-ce qu'il est installable en local? Est-ce qu'il est utile, ou il ne se fait que à travers l'API dédiée?
Il y a une commande, donc tu dois pouvoir l'utiliser directement en ligne de commande, mais un peu à la Claude, tu vois. Par contre, j'avoue que j'ai jamais testé de cette façon-là. Par contre, il n'est pas. Alors, j'ai regardé parce que vu que c'est sorti il y a 2 jours, j'ai regardé dans mon VS Code hier encore. Et il n'est pas encore disponible en copilote. J'ai que GPT-5 et GPT-5 mini, mais il ne devrait pas tarder à arriver. Je crois que sur Cursor, c'est pareil. Donc, voilà.
À tester.
Ça arrive.
Et voir le potentiel, si la pertinence en tout cas des informations qui sort est plus intéressante. Et surtout.
Il est lent, les réponses sont pas bonnes. Ouais. D'ailleurs, il déconne même avec contexte 7, je sais pas pourquoi. Il n'arrive pas à se connecter au MCP, je sais pas. C'est bizarre en fait.
Ok. On verra en tout cas si ça amène plus de possibilités, et de toute façon, on redit encore la même chose, mais on tend vers une spécialisation des modèles Et donc, ça sera super intéressant pour nos applis métiers.
Ouais, d'ailleurs, dans cet article là, que tu as sous les yeux, c'est un autre article qui parle de Codex. Ils expliquent que c'est pour par rapport à Claude, tout ça, qu'ils ont remis à jour, parce que justement, Claude est très performant, et du coup, il leur fallait chez OpenAI un modèle performant en code, quoi. Voilà. Forcément.
C'est la réponse. Course. C'est la réponse.
Ouais.
Normal. Allez, on reste dans ces modèles d'IA, mais pour le coup, quelque chose de peut-être de un peu plus souverain, ou en tout cas à vocation à l'être, Apertus, est un modèle suisse, c'est ça ?
Ouais, développé en Suisse, ouais, totalement développé en Suisse, à l'EPFL, l'EPFZ. Donc EPFL, c'est École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et l'EPFZ, c'est à Zurich. Et après d'autres organismes, ils ont développé ce modèle qui est totalement open source. Donc il y en a d'autres qui existent en open source, contrairement à Llama, tout ça, qui ne sont pas totalement open source, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Mais là, ceux-là sont totalement open source, tout est dévoilé, tous les réglages, tous les données d'entraînement, tout. Et donc voilà, ils ont sorti deux modèles, un Apertus 8B et un Apertus 70B. Qui a été entraîné sur que des données publiques, exclusivement, voilà. Qui a été entraîné sur 40% de données non anglaises, ce qui change aussi, pareil, pour les modèles américains, ou qui sont entraînés quasiment à 95% de modèles de données en anglais. Donc voilà, il est capable de parler 1811 langues, donc c'est pas mal. Et il est plutôt pas mal, il répond bien. Par contre, il est pas très bon en maths et en code. Mais bon. Voilà.
Ouais. Mais la seule question qu'il faut qu'on lui pose, c'est est-ce qu'il connaît mieux la recette de la fondue, quoi ? C'est ça.
La fondue moite-moite.
C'est ça. Et donc, ok, intéressant, intéressant, ouais. Parce que voilà, on est tous d'accord pour dire que de toute façon, ces modèles entraînés aux États-Unis ont un biais de lecture, ou un biais civilisationnel même, sans faire de la grande métaphysique, mais en tout cas, la culture américaine va être imprégnée, la façon de parler, la façon de dire les choses. Ouais. Donc, quelque chose. Là, de un peu plus ouvert et un peu plus, on va dire, européen, du moins à l'échelle du continent, pas spécialement.
Ouais.
Mais c'est côté suisse, c'est bien. On peut au moins soulever la souveraineté suisse là-dessus, quoi.
Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il est plutôt, pour l'avoir testé un petit peu, il fonctionne bien, les réponses sont correctes et tout. Et alors, il est disponible sur Greenface, donc tu peux l'utiliser si tu veux. Et sinon, là, il y a une interface chat qui est disponible pour pouvoir le tester en ligne. Et il y a une API, en fait. Déjà, c'est basé sur une API, alors qu'elle est limitée à 20 requêtes par minute pour l'instant. Donc, c'est plutôt une utilisation pour soi-même.
Personnelle,
mais,
ouais.
Mais voilà, tout est dispo, tout est, voilà, c'est 100% transparent. Donc, c'est magnifique, quoi, j'ai envie de dire.
Excellent.
C'est beau. Un truc qui marche bien, qui est public et tout, c'est génial, quoi.
Top. Top. Allez, on reste dans cette veine de d'IA et de MCP.
Ouais.
Qui MCP, je sais pas pour toi, mais moi j'ai un peu l'intendance, vraiment le sentiment que c'est en train de devenir un standard et demain en fait. On fera nos API et dans la suite logique, on fera notre MCP dédié à notre service, quoi.
Ouais, il y a alors. J'ai découvert que il y avait d'autres standards équivalents à MCP qui étaient développés en parallèle, qui étaient annoncés, etc. IBM en a sorti un autre, je crois, le ACP ou je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, il n'y a pas que le MCP, mais c'est vrai que le MCP prend vraiment. Moi, j'ai presque une MCP fatigue parce ils annoncent un MCP toutes les 5 minutes, il y a un MCP qui sort. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu le standard pour toutes les documentations, tout ça. D'ailleurs, je crois que tu avais partagé sur Twitter il y a Next UI qui a fait un MCP pour la doc, je crois.
Exactement.
Voilà. En fait, tout le monde sort son MCP pour sa doc, donc on va tous se connecter via notre éditeur au MCP de chaque doc, etc. Donc voilà.
Mais sinon, il y a Context 7.
Le Context 7, ouais. Donc ouais, il y a vraiment tellement de choses qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est vraiment incroyable. Mais en tout cas, il y a désormais un SDK PHP officiel pour développer des serveurs MCP. Voilà. Puisqu'à la base, c'était beaucoup JavaScript, etc., Python. Et donc maintenant, on a un serveur, on peut développer des serveurs avec du PHP. Donc voilà, ça a été développé avec l'équipe de Symfony, il me semble. Et c'est assez propre, voilà.
Et PHP Fondation et l'équipe d'Anthropic et l'équipe de Sympho ont fusionné leur jus de cerveau pour en fait sortir un SDK officiel pour pouvoir sortir des MCP en PHP. Donc top. Belle collaboration
PHP,
en tout cas.
Majoritaire du web, donc c'était nécessaire.
Bien sûr. Top. Écoute, Patrick, un grand merci pour toutes ces news. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Propager la bonne parole, propager l'information de double slash auprès de vos collègues. Un grand merci à tous ceux qui nous sponsorisent directement via le GitHub Sponsor. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao.
À bientôt. Ciao.